Guy Bedouel, vous êtes dominicain, vous êtes historien et vous venez d'être nommé depuis le 1er janvier de cette année le nouveau recteur de l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Comment est-ce qu'on accueille cette nouvelle ?
J'étais quand même un petit peu prévenu. Comme je devais prendre ma retraite, j'ai reçu un jour la demande de savoir si j'acceptais, le cas échéant, qu'on me mette sur la liste de ceux qui pouvaient être pressentis pour cette fonction à l'Université catholique de l'Ouest, c'est-à-dire à Angers. Comme c'était le cas échéant, je me suis dit, oh, après tout, pourquoi pas, je peux encore servir si jamais il le faut.
En espérant que le cas échéant n'arrive pas.
Oh oui, j'y pensais pas trop, à vrai dire. Et puis, le cas échéant est arrivé et j'ai donc accepté.
Comment est-ce que l'historien que vous êtes peut affronter cette nouvelle responsabilité ?
C'est moins comme historien que peut-être comme universitaire, hein, c'est-à-dire une certaine et longue expérience des rouages universitaires, des exigences universitaires. Et en plus, je ne suis pas seul, hein, il y a un rectorat, il y a un personnel administratif compétent.
Vous avez été professeur d'histoire de l'Église pendant de longues années à Fribourg et vous êtes très sensible à l'histoire dans la culture. Vous parlez aussi de l'histoire théologique. Vous pourriez nous en dire quelques mots ?
Oui, c'est un concept évidemment qui n'est pas reçu par tout le monde et qui est strictement compris dans celui d'un enseignement d'histoire dans une faculté de théologie.
C'est à l'intérieur de l'histoire de l'Église.
À l'intérieur de l'histoire de l'Église. À la limite, ça pourrait même être une histoire globale, hein. C'est un concept plus large, mais c'est vrai que je l'ai développé à l'intérieur d'une histoire de l'Église catholique. L'Église catholique dans ses rapports évidemment avec le monde et avec les autres chrétiens. Alors, cette histoire théologique, j'ai pris ce terme pour éviter de faire ou d'être amené à faire une théologie de l'histoire. Ce n'est pas une théologie de l'histoire, tandis que ce que j'appelle une histoire théologique, c'est en narrant, en expliquant, en comprenant les faits depuis 2000 ans de christianisme, essayer sans apologétique, ce qui n'est pas si facile, parce que c'est toujours un peu la tendance, de discerner les grandes structures, si je peux dire, de l'action de l'Esprit-Saint. Mais alors là, c'est un peu compliqué, parce que j'ai dit que ce n'était pas une théologie d'histoire, mais c'est une histoire que j'assume en théologien. Si vous voulez, il y a deux niveaux. Il y a le niveau historique, purement et simplement. Là, je crois que les historiens de bonne volonté ont une certain même consensus hein, dans la manière de rendre compte des faits, des événements, mais je crois qu'on peut dire qu'à un certain moment, l'historien en faculté de théologie devient théologien et donne son interprétation, qui est une interprétation subjective, hein, qui est une manière d'essayer de voir comment affleure l'action de Dieu.
Est-ce qu'on peut dire que vous faites, en élaborant cette histoire théologique, quelque chose qui est de l'ordre de la résonance ?
Je suis tout à fait d'accord avec ce terme. J'utilise même l'idée d'une histoire en écho. C'est tout à fait vrai parce que il me semble qu'il y a dans l'attente du chrétien des réalités spirituelles, ecclésiales, anthropologiques aussi, hein, qui s'incarnent dans les faits, dans les événements, dans les grands mouvements de l'histoire. Et c'est cette mise en perspective que j'essaye de faire en faisant résonner les événements les uns par rapport aux autres.
Est-ce que c'est par ce biais-là que vous êtes venu à vous passionner pour le cinéma ?
Je pense que je pourrais dire oui à l'issue d'une grande explication, mais disons tout simplement que cette histoire en résonance, c'est que les réalités spirituelles, les réalités théologiques ne peuvent pas ne pas trouver un écho dans la culture en général. Je vois un film comme moi-même, qui suis historien, théologien, qui
dominicain.
Suis dominicain, français. À un certain moment, quand je suis rentré dans l'ordre dominicain, je pensais bien que je ne verrais plus de films ou bien comme ça des films pieux. Ce n'est pas ça que j'aime. J'aime pas beaucoup les films pieux parce que je crois que, enfin, il peut y en avoir qui sont très, qui excitent à la piété, mais il peut y avoir aussi des films assez médiocres qui sont de bonne volonté, mais qui n'ont pas véritablement une portée artistique. Alors, donc, évidemment, je me suis dit, bon, ben voilà, il faut faire des choix dans la vie. Je ferai de la philosophie, de la théologie, de l'histoire, mais plus de cinéma. Et puis, il s'est trouvé, par une série de circonstances, que les jésuites de Genève m'ont demandé de faire une chronique dans leur revue mensuelle, et je la tiens depuis 35 ans ou plus.
Donc, vous êtes habitué à regarder au moins combien de films par semaine ?
Ah non, très peu, parce que, comme je dis toujours, je ne vais voir que les très bons films, et encore, je n'ai pas le temps de les voir tous. Je ne suis pas astreint, ça c'était la condition de ma collaboration, à rendre compte ni de tous les films, ni des films immédiatement. Donc j'ai une sorte de distance, et je vais voir les films dont je sens que je pourrais parler.
Par exemple, le dernier film que vous venez de voir.
C'est L'heure d'été d'Olivier Assayas, qui est un très bon réalisateur français, avec de très bons acteurs, Charles Berling, Juliette Binoche, etc., qui m'a intéressé parce que c'est un film que les gens vont voir. C'est-à-dire, c'est un film qui n'a aucune prétention spirituelle et qui est l'histoire d'une famille qui a une maison et qui ne va pas garder cette maison et qui va léguer le patrimoine familial au musée d'Orsay. C'est un tout petit peu une publicité pour les donations au musée d'Orsay. Pourquoi pas, dans la mesure où ce film est fait avec une extrême délicatesse et qui pose véritablement le problème, bon, d'abord des familles dispersées, de la mondialisation, de l'attachement à quelque chose qu'on ne peut pas garder et que finalement on partage. Donc ça, c'est la vision, si vous voulez, plutôt optimiste du film, mais il y a une mélancolie, il y a un ton un peu comme Tchekhov et la Cerisaie dans ce film qui m'a beaucoup plu. Évidemment, le cinéma que je privilégie, parce que je ne méprise pas du tout le cinéma divertissement, il y a des choses très bonnes, c'est un cinéma qui fait réfléchir, qui mène à une idée profonde. C'est un peu ça que j'ai, quand j'écris, l'idée que quand j'écris, c'est-à-dire d'aller dans la profondeur de l'œuvre pour rejoindre la profondeur des préoccupations des gens qui vont voir ce film ou qui iront voir ce film et qui sont des préoccupations qui ne sont d'ailleurs pas toujours explicites, mais donc un approfondissement.
Et ça rejoint finalement une des préoccupations du Concile que vous avez cité il n'y a pas longtemps. Il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans le cœur des disciples du Christ. Est-ce qu'on peut justement rejoindre les préoccupations humaines à travers la lecture de films?
La réponse est certainement oui. Mais il faut être quand même très prudent, parce que je ne fais pas une apologétique des films. Hein. Je ne cherche pas à montrer la présence immédiate de l'Esprit-Saint ou de Dieu, parce que ça ne se passe pas comme ça, ça ne se passe même pas comme ça dans la vie. Donc, il faut essayer de voir en termes d'aspiration, de désir, de pressentiment, ce par quoi Dieu nous parle. Dieu nous parle de manière très souvent indirecte, il murmure à notre cœur. Alors, donc, c'est à partir de cela que j'essaye de manifester, un peu aussi, comme vous dites, des résonances dans leur vie, dans notre société, dans le constat qu'on peut faire, le diagnostic spirituel de notre temps. C'est un peu ça que je voudrais plutôt essayer d'éveiller chez mes lecteurs.
Quel est le film que vous avez vu et que vous voudriez que nos auditeurs voient parce qu'il y a derrière cette présence ou cette résonance qui nous emmène vers un au-delà?
Celui qui me vient à l'esprit, hein, parce qu'au fond c'est ça que vous cherchez à me faire dire, celui qui me vient à l'esprit, qui est toujours très, très significatif. C'est un nouveau réalisateur qui est vraiment l'héritier de Tarkovsky et qui s'appelle Alexandre Sokourov et qui a fait une trilogie sur les grands terroristes, si on peut dire, de notre temps, à savoir Hitler et Lénine et le pauvre Hirohito. Donc, si vous voulez, une lecture de notre temps. Là, c'est l'historien qui revient. Mais il a fait très récemment un film qui s'appelle Alexandra et qui est un pur merveille, si vous voulez, dans le style que je cherche. C'est-à-dire, c'est une mère qui va voir son fils qui est en Tchétchénie, qui est soldat officier, et qui passe 24 heures dans ce camp russe en Tchétchénie. Et cette femme, qui est une vieille femme, entre dans ce camp, elle n'a qu'une idée, c'est de voir son fils, et par sa seule présence maternelle, spirituelle, elle est croyante, illumine le passage qu'elle fait si rapide au milieu de ces gens rudes et confrontés à des situations difficiles. Alors, on a dit que c'était un film en faveur de l'action de la Russie en Tchétchénie. Je crois que ce n'est pas du tout ça. C'est un film sur le rayonnement de la bonté.